Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 10. Et le titre de notre message aujourd'hui, c'est « Avec les disciples d'Emmaüs ». Ça se trouve dans Saint-Luc chapitre 24. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux faisait route vers un village du nom d'Emmaüs à 60 stades de Jérusalem et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils discutaient ensemble, Jésus-Christ en personne s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ? » Et ils s'arrêtèrent, le visage morne, et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui s'est passé ces jours-ci. » « Quoi donc ? » leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est advenu à Jésus le Nazaréen, qui s'était montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort, et ils l'ont même crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà deux jours que ces choses se sont passées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, assez bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'y ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire que des anges même leur étaient apparus, qui le déclaraient vivant. Quelques-unes des nôtres sont allées au tombeau et ont trouvé les choses exactement comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, Esprit sans intelligence, lent à croire tout ce que ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils furent près du village où ils se rendaient, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Oh, reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux. Or, une fois à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Et alors là, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Sur l'heure, ils partirent et revinrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur dirent « C'est bien vrai !» Le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment il l'avait reconnu à la fraction du pain. Saint Luc chapitre 24, verset 13 jusqu'au verset 35. Chers amis, deux hommes marchent un soir de printemps sur la route. Ils sont sous le coup du grand malheur survenu à Jérusalem. Ils évoquent la profondeur de leur détresse. N'avaient-ils pas mis tout leur espoir et toute leur confiance en Jésus-Christ? Ne voyaient-ils pas en lui celui qui pourrait restaurer la puissance d'Israël? De cet Israël humilié par les légions romaines, il allait refaire un Israël vainqueur. Et ces deux hommes pleurent sur leur rêve crucifié. Un inconnu les a rejoints et marche à leur côté. Il s'étonne de leur tristesse, comme si rien n'était arrivé ou comme s'ils n'étaient au courant de rien. Sa joie, sa bonne humeur frisent l'insolence. Cet homme semble venu d'ailleurs. Il n'a même pas pris la peine de se présenter. Paisiblement, il reprend 10, 20, voire 30 textes des Saintes Écritures où il est question du Messie et de son chemin d'humiliation. Le désespoir des deux disciples avait une cause bien réelle. Jésus n'était sûrement pas le Messie puisqu'il était mort. Pour leur faire comprendre le sens des événements qu'ils viennent de vivre, le Christ va faire appel à toutes les références de l'Écriture sainte où il est question d'un Messie homme de douleur. L'évangéliste ne nous en rapporte pas le détail, mais il est facile de retrouver les textes que le Christ a pu évoquer à l'appui de sa démonstration. Les Juifs, depuis longtemps, attendaient le Messie. Mais quel Messie? Un prestigieux messager qui allait changer le cours des choses, et cela le plus rapidement possible. Les événements qui viennent de se dérouler à Jérusalem ont été si terribles. Il laisse une telle impression de fin et d'échec définitif. Tout invite à penser que les forces du mal ont eu le dernier mot. Or, le Christ va évoquer auprès des disciples d'Emmaüs les passages de l'Écriture sainte qui parlent d'un Messie souffrant. Ésaïe nous propose à cet égard le texte le plus fort. Sans beauté, ni éclat, sans aimable apparence, objet de mépris, rebut de l'humanité, homme de douleur, accablé par la souffrance, comme ceux devant qui on se voile la face. Il était méprisé et déconsidéré. Or, c'était nos souffrances qu'il portait. C'était nos douleurs dont il était accablé. Et nous, nous l'estimions châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous rend la paix est tombé sur lui, et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. Oui, c'est grâce à ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 2 à 5. Le texte évoque bien des événements qui se sont déroulés sous les yeux des deux disciples. Affreusement traité, il fut humilié. Il n'ouvrait pas la bouche, comme un agneau conduit à la boucherie. Ésaïe 53, verset 7. On peut imaginer l'étrange voyageur d'Emmaüs parlant aux deux hommes. Vous n'avez donc pas assisté au procès? Avez-vous vu comme le condamné a gardé le silence? Est-ce qu'il ne ressemble pas à ce moment-là à un agneau que l'on conduit à la boucherie? Ils avaient imaginé un Christ glorieux, royal et triomphant. Mais le voilà ramené au Messie humble et douloureux d'Ésaïe. Oui, des gens affirment que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et nous en tenons la preuve sur la croix. Il a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Saint Marc, chapitre 15, verset 34. Et de prétendre que s'il était Dieu, il n'aurait jamais poussé un tel cri. L'Écriture nous apporte une autre lumière. Ce cri ouvre le psaume chapitre 22. Le Christ en croix a pu reprendre spontanément cette citation. Il a constamment utilisé dans ses discours et ses conversations des phrases du livre saint. Et lorsqu'il est tenté au désert, par exemple, eh bien ce sont des citations bibliques qui viennent sur ses lèvres. Or, le psaume 22 est un véritable résumé de la passion du Christ. Lisez ou notez les versets 7 à 9, où il est dit « Et moi, ver et non pas homme, honte du genre humain, rebut du peuple, tous ceux qui me voient me bafouent, leur bouche ricane, ils hochent la tête, et c'est remis à Dieu qu'il le libère, qu'il le délivre puisque il est son ami. » Ces passants ricanent, en effet. Il a compté sur Dieu, eh bien, que Dieu le délivre maintenant, s'il s'intéresse tellement à lui. Il a bien dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Saint Matthieu, chapitre 27, verset 43. C'est un parallèle saisissant. Et l'on peut continuer le psaume 22, verset 13, où il est dit, « Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes m'encerclent. » Ces images symboliques ne résument-elles pas la haine de la populace et des soldats? Continuons au verset 15 à 19, toujours du merveilleux psaume 22. « Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est semblable à la cire. Des chiens nombreux me cernent. Une bande de vauriens m'assaille. Ils me lient les mains et les pieds. Ils me couchent dans la poussière de la mort. On peut compter tous mes os. Ces gens me toisent et me surveillent. Ils partagent entre eux mes habits. Ils tirent au sort mon vêtement. C'est mot pour mot, chers amis, ce qui s'est passé ce jour-là. Et vient alors l'acte de confiance dans le Père Céleste. Lisez au verset 20. « Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Délivre mon âme de l'épée. Alors j'annoncerai ton saint nom à mes frères en pleine assemblée et je te louerai. » Et versets 24 et 25 nous dit « Vous qui aimez Dieu, louez-le, toute la race de Jacob, glorifiez-le, car il n'a pas méprisé la pauvreté du pauvre, il ne lui a pas caché son visage, invoqué par lui, il l'écouta. » Et le psaume 22 se termine en cri de victoire, du verset 26 jusqu'au verset 32. C'est toi, ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes promesses devant ceux qui t'aiment. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que leur cœur vive à jamais. La terre entière se souviendra et reviendra vers Dieu. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. Mon âme vivra pour lui, ma postérité le servira. On annoncera le Seigneur aux générations futures, sa justice au peuple à venir. Telle est son œuvre. Lorsque on isole la première phrase du psaume 22, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce verset n'est plus que le cri de détresse d'un homme désespéré. Il devient une pièce dans le dossier de l'athéisme. En effet, Dieu est cruel, c'est ce qu'il fallait démontrer. Si on se souvient de l'ensemble de ce psaume, le désespoir se change en éblouissement. Oui, nous aussi, trop souvent, au sujet des événements de notre vie, nous nous hâtons d'en faire la lecture la plus sinistre. J'imagine les conversations sur nos routes d'Emmaüs à la tombée de la nuit. J'imagine le chamboule-tout qu'apporterait la venue de ces visiteurs du soir. Pourquoi êtes-vous si triste? Quoi? Tu es bien le seul à ignorer tout ce qui se passe? Nos enfants qui se droguent, la montée de la violence, le nombre des chômeurs, des chrétiens à la remorque des dictatures, le découragement généralisé, la course aux armements nucléaires, les massacres du Cambodge, du Liban, d'Afghanistan, la montée du terrorisme. À chaque culte, les chrétiens se rassemblent pour accueillir les Écritures. Notre cœur pourrait devenir tout brûlant en apprenant à lire nos drames avec d'autres yeux. À chaque culte, Jésus-Christ nous invite à la table d'Emmaüs. Là, tout est transfiguré. À la fraction du pain, nous pourrons reconnaître le ressuscité. Rien n'est changé dans nos pauvres vies, et pourtant, rien ne sera plus comme avant. À travers les nuages les plus noirs qui barraient l'horizon, le soleil confirme sa victoire. Aucune page de la Bible n'est aussi révélatrice que celle-là. Y figurent les deux versants de la condition humaine, condition de pécheur, condition de sauvé. Pécheur, l'homme manque à l'amour. Il n'accomplit pas la vocation qui est la sienne. Lui qui est un être inventé pour aimer. Souvent, il succombe à la pesanteur. Moi d'abord, peu importe le sort de l'autre, pourvu qu'il ne contrarie pas les miens. Lire l'Évangile, c'est s'y reconnaître. Où suis-je, moi, personnellement, dans toute cette histoire? Lâcheté des autorités? Paresse des hommes qui suivent l'opinion sans chercher à vérifier si celle-ci exprime la réalité? Orgueil de celui qui croit devenir ou de détenir la vérité? Si la raison est bien, nous avons tort. Et cela est impensable, pas possible. Donc, à l'évidence, il a tort. À la passion, le mal, sous toutes ses formes, est démasqué. Le Christ ressuscité nous propose une guérison. Sa première parole sera « Recevez le Saint-Esprit ». Les péchés seront remis à ceux auxquels vous les remettrez. Saint Jean, chapitre 20, verset 23. Tu es invité à vivre éternellement libre, car tu es aimé de Dieu. Le Christ nous le dit lui-même par sa vie. Je t'ai aimé à en mourir. Tu as été créé par Dieu à son image. Ce qui te rend précieux, c'est que Dieu t'a inventé, t'a voulu, a souhaité que tu existes. Mais désormais, une annonce t'est faite, encore plus sublime. Non seulement tu es issu de Dieu, non seulement il t'a rêvé de toute éternité, mais pour que tu ne sois pas abîmé, que tu ne sois pas détruit, pour que l'amour en toi ne soit pas étouffé, il te donne, Jésus-Christ te donne donc sa propre vie. Alléluia. Chers amis, nous comprenons tous ceux qui parfois posent la question « Pourquoi a-t-on tué Jésus-Christ ?» Il est dit dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Saint Jean, chapitre 15, verset 13. Oui, pourquoi a-t-on tué Jésus-Christ? Est-ce un malentendu? Que s'est-il passé? Pourquoi une si puissante agressivité s'est-elle déchaînée contre lui? Pourquoi cette coalition du pouvoir civil, du pouvoir religieux, du pouvoir populaire, de l'opinion publique, de la foule? Mais pourquoi? Un an plus tôt, l'opinion était favorable à Jésus-Christ. Auprès du peuple, il s'était acquis une audience extraordinaire. Ce succès inquiétait bien entendu les chefs religieux. Sans cesse, on les entend murmurer « Nous ne pouvons pas laisser cet homme continuer librement ce qu'il fait. Toute la foule le suit. » Même si son enseignement déroute, le peuple est attiré par ses guérisons. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent, les paralysés se lèvent, les lépreux sont purifiés. Saint Luc chapitre 7, verset 22. Une certaine présence, un charme s'exerce. Des gendarmes envoyés pour l'arrêter reviendront bredouilles en donnant une explication insolite. Mais personne n'a jamais parlé comme cet homme. Saint Jean chapitre 7, verset 46. La résurrection de Lazare va faire déborder le vase. Les chefs prennent alors leur décision. Elle est irrévocable. Cela ne peut plus durer. L'influence de Jésus-Christ est devenue bien trop grande. Il faut faire arrêter cet agitateur. Il l'estime coupable du crime le plus grave qui soit à leur époque, c'est-à-dire atteinte à la sûreté de la foi. Ça, c'est grave. Les religieux, les scribes, les docteurs de la loi sont de plus en plus déroutés. Jésus-Christ donne à la religion un contenu différent de celui auquel ils sont habitués. Pour eux, la religion est d'abord adoration de Dieu et de lui seul. La première alliance raconte la lutte contre les idoles et les multiples infidélités du peuple. L'orthodoxie n'en est que plus rigoureuse et sans concession. Or, dans son enseignement et dans ses actes, le Galiléen semble faire passer l'honneur de l'homme avant l'honneur de Dieu. Il a même été jusqu'à dire « Quand tu présenteras ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis reviens et alors présente ton offrande. » Saint Marc, chapitre 11, verset 25. Ils chercheront par tous les moyens à prendre Jésus-Christ en flagrant délit de violation de la loi. Voyez-vous, un jour de sabbat, nous sommes dans la synagogue. Tout est là pour que la provocation soit éclatante. Relisons Saint Matthieu, chapitre 12, versets 9 à 13. Jésus, arrivant à la synagogue, il trouve un homme à la main desséchée. Aussitôt, les pharisiens lui posent la question « piège », espérant le prendre en défaut. D'y voir, est-il permis de guérir le jour du sabbat? Va-t-il oser? Se disent-ils. On imagine assez bien la scène. Jésus-Christ, laissant passer un long silence, les regarde, incrédule devant une telle dureté, cherchant passionnément le chemin de leur cœur. « Qui d'entre vous, dit-il, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira la chercher pour l'en retirer ? Or, combien l'homme l'emporte sur la brebis ? Par conséquent, il est permis de faire une bonne action le jour du sabbat, chapitre 12 de l'évangile de Matthieu, versets 11 à 12. Le Christ prend le risque et il guérit l'homme. L'évangéliste ajoute, les pharisiens sortirent et ils ont tenu conseil contre lui en vue de le perdre. Toujours au chapitre 12, mais verset 14. La décision est donc prise d'en finir définitivement avec Jésus. Saint Marc raconte cet événement d'une manière encore plus saisissante au chapitre 3, versets 1 à 6. À la question de Jésus demandant s'il vaut mieux le jour du sabbat sauver une vie ou la perdre, l'évangéliste Marc note « Eux se taisent » et il ajoute « Jésus promenait sur eux un regard de colère, affaré, vraiment effaré de l'endurcissement de leur cœur. » Et de son côté, l'évangéliste Luc, chapitre 6, versets 6 à 11, souligne que les scribes et les pharisiens l'épiaient pour voir s'il allait guérir le jour du sabbat afin de trouver de quoi l'accuser. Et il conclut son récit. Eux furent remplis de fureur. Ils se concertaient sur ce qu'ils pourraient bien faire, ce qu'ils pourraient bien faire à Jésus, dans la pensée de mal faire, évidemment. À différentes reprises, dans ses contacts avec la pègre de son époque, lépreux du corps et lépreux de l'âme, nous pouvons réaliser la gravité du délit dont Jésus-Christ se rend si tranquillement coupable. Entre ceux qui pensent « l'homme est fait pour le sabbat » et lui qui affirme « le sabbat est fait pour l'homme », l'opposition est totale. Notez Saint Marc chapitre 2 verset 27. Jésus bouscule l'ordre des choses. Il donne de Dieu une image insoutenable, celle d'un Dieu qui ne tient pas son rang, un Dieu dont le prétendu messager prend ses repas avec les rebuts de la société. Pour certains pharisiens, Dieu est avant tout la puissance, la domination et surtout la séparation d'avec l'impureté, car saint, 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 trois fois saint, est l'Éternel. Et ces pharisiens ne respectaient rien autant que ce mot-là. Mais ils l'avaient vidé, voyez-vous, de sa véritable substance, n'en gardant plus que les formes. Ce peuple ne m'approche qu'avec des mots, mais son cœur est loin de moi. Sa religion envers moi n'est que précepte humain, leçon apprise, disait Ésaïe au chapitre 29, verset 13. Et c'est repris par le Christ dans Saint Marc, chapitre 7, versets 6 et 7. Je voudrais dire juste ceci. Les serviteurs de Dieu, hommes ou femmes, sont presque tous obligés de travailler le dimanche d'une façon ou d'une autre pour mémoriser ou revérifier les textes bibliques pour leur culte. Certains doivent même préparer eux-mêmes la table pour la Sainte Cène, etc. Le commerçant ou les commerçants qui font travailler du personnel le dimanche uniquement pour gagner davantage d'argent, il me semble que cela ne devrait pas être comparé au paysan qui est absolument obligé de traire ses vaches 7 jours sur 7 et où le médecin et l'infirmière sont bien obligés de faire leur travail. Oui, Jésus-Christ leur dit « Vous filtrez le moustique et vous engloutissez le chameau. » Évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 24. « Vous êtes très rigoureux sur des points secondaires et totalement indifférents à l'essentiel. » Mais les pharisiens les mieux disposés à son égard supportent mal ces fréquentations douteuses. Le pharisien qui prend des risques en accueillant Jésus-Christ à sa table est choqué. Si Jésus était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche dans Saint-Luc chapitre 7. Verset 39. Les pharisiens ne veulent pas reconnaître en Jésus-Christ un envoyé de Dieu dont l'amour recherche inlassablement le plus démuni, le marginal, celui qui est abandonné de tous. Visiblement, ils ne comprennent pas. Les pharisiens représente à cette époque un style de vie. Ce sont des laïcs qui se stimulent les uns les autres vers la perfection. Ils cherchent à appliquer la loi dans ses moindres exigences. Tous les pharisiens n'étaient pas étroits comme ceux de l'Évangile. Certains étaient admirables. Ceux dont nous parlent les évangiles, eux, se sont braqués carrément contre Jésus-Christ. Ils professent l'application la plus rigoureuse de la loi. Pour eux, rien ne peut être plus important que les prescriptions légales. Lorsque le Christ vient leur dire « Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Évangile de Marc, chapitre 2, verset 27. Alors, la colère leur monte au visage, l'indignation et la honte. Ces hommes voient d'abord les lois qui maintiennent la cohésion d'une société. Peut-être que leur propre référence n'est pas plus l'honneur de Dieu que la dignité de l'homme. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est de demeurer dans la nomenclatura, dans la caste du pouvoir central qui décide de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Parvenus à ce poste, on est au-dessus des lois, puisque on les édicte. Jésus-Christ, lui, enseigne que s'il y a divorce entre la loi et l'accomplissement de l'homme, c'est l'accomplissement de l'homme qui doit l'emporter. Dans l'évangile de Saint Jean, nous voyons porter au plus haut degré le conflit entre le clan puissant du monde religieux et le Christ. Lorsque Jésus fait une allusion discrète à son identité, alors l'indignation est à son comble. Ainsi, au chapitre 8, verset 24 de Saint Jean, il est dit « Je vous le dis, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis. » Cette expression « je suis » parle beaucoup aux Juifs, car c'est celle de Dieu quand il s'est adressé à Moïse sur le Sinaï en révélant son saint nom. Jésus-Christ reprend les mêmes mots pour se définir lui-même. À la question « Qui es-tu ?» il répondra « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. » Évangile de Jean, chapitre 8, verset 28. Ici, « élevé » veut dire « crucifié ». C'est une allusion directe à la façon dont on va le faire mourir. Au moment où Jésus leur dit « La vérité vous libérera » Jean chapitre 8, verset 32, ses interlocuteurs prennent feu. Nous sommes de la race d'Abraham. Jamais nous n'avons été esclaves de personne. Comment peux-tu dire des choses pareilles ? Jean chapitre 8, verset 33. Et Jésus de répondre, « Tout homme qui tombe dans le péché est un esclave. » Chapitre 8, verset 34 de l'évangile de Jean. Le péché auquel il pense ici est ce goût d'exclure, ce besoin d'éliminer celui qui dérange. « Ah, vous voulez me tuer ?» parce que ma parole n'entre pas en vous, dans vos cœurs. Jésus-Christ reproche aux officiels de la religion, à ces intégristes purs et durs, leur étroitesse d'esprit. Ils refusent de l'écouter, le condamnent d'avance, tout simplement, au terme d'un procès d'intention. Le dialogue qui suit est très abrupt. On y perçoit toujours ce profond malentendu entre Jésus et les pharisiens. Vous ne pouvez pas écouter ce que je voudrais vous dire. Vous avez pour père Satan, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Dès l'origine, ce fut un homicide. Saint Jean chapitre 8, verset 44. C'est donc très clair. À la fin de cette rencontre avortée, Jésus renouvelle pour la troisième fois l'affirmation de son identité. Avant qu'Abraham fût, je suis. Saint Jean chapitre 8, verset 58. Alors ses interlocuteurs s'apprêtent carrément à le lapider. En effet, Jésus-Christ a commis le crime suprême. C'est le blasphème intolérable. Il se créait contre Jésus une coalition qui a pour but avoué de l'éliminer. Il est devenu le perturbateur, le rebelle, l'homme qui met carrément en danger l'ordre établi. L'ennemi public numéro un, c'est bien lui. Ses accusateurs ont décidé de tout mettre en œuvre contre lui. C'est impressionnant. Ils ne vont pas hésiter à faire alliance avec le diable. Oh non, mais ils vont le faire. Le pouvoir romain n'est-il pas celui qui humilie le peuple élu depuis des années, celui qui occupe militairement le pays? C'est pourtant à lui, à l'occupant, figurez-vous, qu'ils vont demander la tête de Jésus-Christ. Cette démarche est tellement insolite que Pilate n'y comprend absolument rien. On le voit hésiter, s'interroger. Mais qui sont donc ces gens tellement obsédés d'en finir avec ce pauvre illuminé? Finalement, ils se lavent les mains. Qu'ils se débrouillent entre eux. Jésus comparaît devant le tribunal religieux. Anne, le grand prêtre, l'interroge sur ses disciples et sur sa doctrine. C'est un grand jour que j'ai parlé au monde. Oui, je n'ai pas parlé en cachette, mais j'ai parlé toujours au grand jour, hein, pas la nuit, mais à la clarté. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple. Je n'ai absolument rien dit en cachette, jamais. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que j'ai dit. Évangile de Saint Jean au chapitre 18, versets 20 et 21. Et à ces mots, un garde va gifler Jésus. Ah, c'est ainsi que tu parles au grand prêtre? Quel culot! Et Jésus répond, mais si j'ai mal parlé, montre-moi où est le mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Évangile de Jean, chapitre 18, versets 20 à 23. Le procès se poursuit chez Caïphe. Les prêtres ne donnent pas à Jésus la possibilité de s'expliquer. Et quand le conseil des anciens, constitué en tribunal, et qui réunit les grands prêtres et les scribes lui demande « Es-tu le Christ, le Fils du béni ?» Saint Marc, chapitre 14, verset 61. Jésus répond « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. » Luc 22, versets 67 et 68. Jésus ajoute solennellement, citant carrément le prophète Daniel, « Mais vous venez à l'avenir. Oui, vous verrez en venant vers Christ. Vous verrez que le Fils de l'homme aura son siège à la droite de la puissance de Dieu. Ce n'est pas rien. Ça vaut la peine de répéter Saint Luc chapitre 22, verset 69. Mais vous verrez à l'avenir. Oui, vous le verrez, le Fils de l'homme, car il aura son siège à la droite de la puissance de Dieu. Quel défi, ne pensez-vous pas? La phrase est nette et elle est précise, affirmation ouverte de son identité. Tu es le Fils de Dieu, lui demande-t-on. On imagine la stupeur du tribunal devant la réponse effrayante, inconcevable, blasphématoire. Vous dites bien, je le suis. Luc 22, verset 70 à 71. Alors, ils vont traîner Jésus devant Pilate. Or, les voilà cherchant à emporter la conviction de l'occupant contre l'un des leurs, en chargeant Jésus à mort. Tout leur est bon, jusqu'au détournement de la fameuse phrase sur le tribut rendu à César. Fallait-il qu'ils aient besoin d'un prétexte pour aller chercher cette histoire d'impôt? Pilate n'était sans doute pas habitué de la part des Juifs à un tel souci des deniers de César quand il s'agissait pour lui de lever l'impôt. Les Juifs ont cru que le procurateur romain serait sensible à cet argument. Même pas. Je ne trouve rien, mais rien du tout, de coupable en cet homme. Luc 23, verset 4. Pilate est bien trop content de se défausser sur Hérode de cette histoire douteuse et dramatique. C'est à ce moment que Jésus perd son seul allié, celui qui le suivait et l'écoutait, séduit par ses miracles, intrigué par sa personnalité, le peuple. Quelques jours avant, oui, ce peuple, pourtant, quelle fête ne lui avait-il pas réservée pour son entrée à Jérusalem, souvenez-vous? Mais aujourd'hui, cette marée populaire déferle contre lui. Crucifie-le. Luc chapitre 23, verset 21. Crucifie-le, crie-t-elle tout ce peuple à Pilate. Il crie, crucifie-le. Décidément, Pilate est dépassé, dépassé par les événements trop compliqués pour lui. Et la foule préfère même que le Romain relâche un truand, un assassin, Barabbas. Que s'est-il donc passé? Pourquoi ce revirement? La foule, on le sait, a des réactions inattendues et brûle rapidement ce que hier elle adorait. Quel changement! L'ennemi est vraiment fort, rusé et malin. Toutes les vedettes de l'actualité savent cela. On n'arrête pas la marée. Dans l'inconnu, a-t-elle choisi la sécurité en suivant ses chefs religieux? Qui le dira? Quand le petit groupe des fidèles s'est lui-même évaporé, comment le Christ pourrait-il compter sur la foule anonyme, lâche et versatile. Cette condamnation de Jésus-Christ nous révèle le mal qui nous ronge absolument tous. Je pense aux médecins qui découvrent les causes de la souffrance d'un malade. Je viens de regarder vos poumons au rayon X. Oh là là, vos 4 paquets de cigarettes par jour les ont totalement détruits. Lorsque l'homme sait ce qui est atteint en lui, il peut, se sentant menacé, désirer être sauvé, ou du moins d'essayer. À travers la passion du Christ, nous voyons le mal qui nous dévore. La plus grave faute de l'homme, c'est de juger. Nous ne regardons pas l'autre selon ce qu'il dit de lui-même, mais selon ce que nous pensons de lui. Oui, selon ce que nous pensons. Nous croyons à la supériorité de notre point de vue. Ayant écarté Dieu, nous avons pris sa place. Notre jugement devient notre référence. Les idées toutes faites sont des idées qui tuent. Jugement hâtif, jugement sans appel. Jésus n'a cessé de démasquer cette violence. C'est en cela qu'il nous libère. Il nous montre jusqu'à quelle incroyable bassesse peut aller notre orgueil. Il nous donne du même coup un sursaut de conscience. Et si nous le voulons, le désir d'être sauvé. L'homme projette sur les autres une image réductrice, on peut dire une image infamante, une image indigne, et il finit par se persuader lui-même de la vérité objective de son fameux jugement. On l'a bien vu avec les nazis et leur comportement à l'égard des Juifs, avant d'en arriver à l'extermination totale, ils ont commencé par attribuer aux Juifs tel ou tel crime. « Tous nos malheurs, a dit Hitler, viennent de ces gens-là. Finissons-en avec eux et tout ira mieux. » Le climat hostile que les nazis avaient développé leur a permis d'en venir à la solution finale, sans que personne réagisse. L'attitude qui a mené au génocide contre les Juifs est la même que celle qui a conduit Jésus à la mort. Face à un Dieu crucifié et face à un peuple crucifié, l'homme peut se dire « Je suis capable d'aller jusque-là, à la passion. Le Christ a permis aux puissances des ténèbres, à Satan et ses démons, de se démasquer. Il leur a retiré la complicité de la nuit. C'est bien, selon les paroles de Jésus-Christ, l'heure du prince de ce monde, régisseur de ce monde des ténèbres, menteur et père du mensonge, accusateur et homicide, meurtrier. Je répète cela avec les versets qui vont avec ce texte. L'heure du prince de ce monde, Saint Jean chapitre 12 verset 31. Régisseur de ce monde des ténèbres. Éphésiens chapitre 6 verset 12. C'est important de noter tout cela. Menteur et père du mensonge. Saint Jean chapitre 8 verset 44. Accusateur. Apocalypse 12 verset 10. Et homicide, carrément meurtrier. Saint Jean, chapitre 8, verset 44. Tout cela, chers amis, va bientôt se réaliser. Il y a les nations qui bientôt vont s'attaquer pas seulement à tous les Juifs, mais également à tous les chrétiens. Rappelez-vous de ce que vous venez d'entendre. Chers amis, nous terminons maintenant par quelques mots d'encouragement que j'aimerais vous donner. Ensuite, nous prierons ensemble. Annoncez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu, oui Dieu, t'a élu pour être un témoignage vivant de lui-même, le Seigneur qui est la lumière du monde. Toutefois, tu ne seras toi-même lumière du monde, rayonnant sur autrui, que dans la mesure où tu te sépareras de tout péché et de ce que tu tiens caché au centre de ta vie. Ce n'est que par ta disponibilité à porter en pleine lumière ta faute dissimulée et par là annoncer toujours à nouveau la victoire de Christ qu'il te sera sans cesse possible de frayer un chemin inédit à son royaume de lumière. Prions maintenant. Ô notre Dieu et notre Père, tu nous accordes encore un jour de grâce pour travailler à notre salut en te servant avec amour et confiance. Fais qu'il ne soit pas perdu pour nous, que nous quittions toutes choses pour te suivre, et que nos cœurs s'attachent si étroitement à toi que rien ne puisse les en séparer. Nous recourons du fond de nos cœurs à ce Sauveur charitable en qui repose toute notre espérance. Ô Seigneur, sauve-nous, réveille-nous de notre sommeil tandis qu'il en est encore temps. Nous implorons ta bénédiction sur cette journée. Préserve-nous de toute mauvaise pensée, de tout ce qui est contraire à ta sainte volonté. Conduis-nous sans cesse par ton Esprit Saint. Donne-nous le besoin d'avancer dans la sanctification, une entière résignation à ta providence, un amour ardent pour toi et une charité sincère qui nous porte à nous aimer et à nous édifier les uns les autres. Détache nos cœurs de ce monde qui n'est que vanité et fais-nous la grâce de les élever vers le ciel et vers toi, oui, vers toi, afin que, veillant et priant sans cesse, nous soyons renouvelés par ton esprit et vivons dans la justice et la piété et que nous attendions en paix l'instant de paraître devant ton trône éternel. Bénis donc nos parents également, nos amis, notre chère patrie, tous les hommes et femmes qui sont nos frères et sœurs. Bénis en particulier ceux qui souffrent et que tu visites par des épreuves. Exauce notre humble prière, Seigneur, au nom et pour l'amour de ton Fils bien-aimé. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Ça, c'est une réalité que nous ne devrons jamais oublier. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Merci pour l'intérêt que vous portez à ces messages. Et je souhaite qu'on se retrouve à bientôt à nouveau. Au revoir, mes très chers amis.